Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de votre fidélité à ce programme. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la vaccination contre Covid-19. Un salarié peut-il être licencié pour refus de vaccination? C'est ce qui se passe sous d'autres cieux actuellement. Eh bien, nous allons en parler dans cette émission avec nos invités pour en savoir plus. Et dans la deuxième partie de l'émission Capi Service, nous allons parler des taxes, de la taxe sur l'abattage des espèces protégées en RDC. Quelle est son opportunité? Quelle est l'opportunité de cette taxe? Eh bien, nous allons recevoir comme invité le professeur Amundel Adrazo, expert en faune sauvage. Maître Félix Credo Lila Kako, président du conseil d'administration de l'ONG Juriste pour l'environnement au Congo, sera également de la partie des questions et préoccupations. Composez déjà le 081-890-63-94, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde, Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission qui présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Danse. Okapi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais, d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Aujourd'hui, nous allons parler vaccination contre Covid. Un salarié peut-il être licencié? Peut-on le mettre à la porte parce qu'il a refusé de prendre le vaccin? Eh bien, la vaccination contre Covid-19 est devenue obligatoire pour certaines professions, sous d'autres cieux, notamment en France et en Belgique. Certaines catégories des travailleurs, tels que les médecins infirmiers, sont contraints de se faire vacciner. Tout refus peut entraîner la rupture du contrat de travail et la suspension du droit d'exercer. Cette décision n'enchante pas de nombreuses personnes qui dénoncent une violation de la liberté de choix de chaque individu. Alors, quelles sont les dispositions de la loi congolaise par rapport à la vaccination obligatoire? Peut-on licencier un employé qui refuse de se faire vacciner? Pourquoi rendre le vaccin contre Covid-19 obligatoire? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions tout à l'heure avec nos invités. Vous voulez également participer? Vous voulez intervenir dans cette émission? Vous avez des questions et préoccupations? Eh bien, le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net et vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Nous allons accueillir tout à l'heure Maître Joël Bongolelo, avocat au barreau du Congo central. Il sera avec nous tout à l'heure pour échanger autour de cette question. Appelez-nous pour participer à cette émission au 081-890-63-94.
Quelqu'un bien personne. importe ce qu'on donne. Donner, c'est comme recevoir, mais sans s'en apercevoir. Comme quand on pardonne à ceux qu'on aime, qu'on goûte à l'opium d'aimer quand même, d'aimer quand même.
À vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, un salarié peut-il être licencié pour refus de vaccination? Eh bien, La vaccination contre Covid-19 est devenue obligatoire pour certaines professions sous d'autres cieux, notamment en France et en Belgique. Certaines catégories des travailleurs, tels que médecins, infirmiers, sont contraints de se faire vacciner. Tout refus peut entraîner la rupture du contrat de travail et la suspension du droit d'exercer. Ces décisions n'enchantent pas de nombreuses personnes qui dénoncent une violation de la liberté de choix de chaque individu. Quelles sont les dispositions de la loi congolaise par rapport à la vaccination obligatoire ? Peut-on licencier un employé qui refuse de recevoir le vaccin? Et pourquoi rendre le vaccin, la vaccination contre Covid obligatoire? Nous avons dans ce studio Maître Bongo Longondo. Voilà. Maître, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau du Congo central. Alors, un salarié peut-il être renvoyé parce qu'il a refusé de recevoir le vaccin?
Merci pour l'invitation. Je commence par présenter mes excuses pour ce retard. Un salarié ne peut pas être licencié pour refus de se faire vacciner, tout simplement parce que la République démocratique du Congo a ratifié un certain nombre de traités et accords internationaux qui garantissent les droits de l'homme, notamment les droits à la vie privée et à la liberté individuelle. Et que, tenant compte de ces droits, nous avons un code du travail qui s'applique dans notre pays. Et les dispositions de ces codes sont d'ordre public. Donc, les particuliers ne peuvent pas déroger même des communs accords. Et si vous lisez les articles 160, 161 et 162 de ces codes, le législateur a prévu des mécanismes des services de santé pour sécuriser les travailleurs et que si l'État veut prendre des mesures pour lutter contre une pandémie, par exemple Covid actuellement, la loi dit que le ministre qui a le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions doit prendre un arrêté sur proposition du Conseil national du travail pour appliquer ce chapitre du code qui contient les articles que j'ai énumérés, qui prévoit comment il faut mettre en application ces dispositions par rapport à la sécurité et à la santé des travailleurs. Et qu'à ce jour, il n'y a pas un tel arrêté qui oblige les travailleurs à se faire vacciner pour que l'employeur soit permis de licencier celui qui refuse de se faire vacciner.
Donc il n'y a pas encore une disposition comme ça, c'est dans le code du travail, c'est ça?
Oui, c'est dans le code du travail. Il faut qu'il y ait un arrêté qui met en application ces dispositions par rapport aux mesures concernant la sécurité, la santé au milieu du travail.
Voilà, ce qui se passe en Europe par exemple aujourd'hui, c'est sur quel fondement juridique?
En Europe, la question aussi pose problème parce que la Cour européenne des droits de l'homme, dans des arrêts saisis par des citoyens, l'un turc et l'autre italien, a déjà arrêté que l'imposition à un citoyen de se faire vacciner est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et par rapport à la RDC, j'ai fait allusion aux traités et accords internationaux ratifiés par notre pays. Je peux prendre l'exemple du pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 4 de ce pacte permet aux États de déroger à certains droits garantis aux citoyens, mais le même article interdit de déroger aux droits garantis dans les articles 6, 7, 8 et 9. Et si vous lisez ces articles, il est fait allusion à la liberté, au droit à la vie privée et à la liberté individuelle. Donc, même s'il faut prendre des mesures pour lutter contre la pandémie Covid-19, on ne peut pas mettre en cause les droits à la vie notamment et à la liberté parce que chacun est libre d'accepter ou non de se faire vacciner. Encore que notre Constitution, dans son article 16 et même à l'article 22, garantit les droits à la vie et à la liberté de conscience et même de religion. Il y a des religions qui demandent à leurs fidèles de ne pas accepter certaines expérimentations médicales. Ici au Congo, vous avez par exemple les témoins de Jéhovah qui refusent même la transfusion sanguine et ils peuvent refuser aussi de se faire vacciner. Donc prendre une mesure qui oblige aux gens de se faire vacciner, je ne suis pas là en train de faire une campagne contre la vaccination anti-Covid, mais nous parlons droit. ce serait violer les droits fondamentaux de la personne humaine.
Voilà, donc c'est une violation, parce qu'il semble que chaque individu a le libre choix, le droit de choisir, d'accepter ou non ce qu'elle veut.
Oui, ce droit est fondamental, garanti d'abord par la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres instruments juridiques internationaux et même par notre constitution. C'est vrai que la personne qui se prévaut d'un tel droit doit aussi penser à la sécurité des autres, parce que par rapport à la lutte contre la pandémie COVID-19, la sécurité doit être collective. Vous sécurisez aussi les autres. Celui qui refuse de se faire vacciner, c'est vrai, il ne peut pas faire l'objet d'un licenciement, mais il doit aussi être en mesure d'observer certaines mesures qui sécurisent aussi les autres. C'est d'ailleurs même une obligation qu'impose le code de la famille à tout travailleur d'adopter des mesures de sécurité, d'hygiène, d'abord pour lui-même et aussi pour ses compagnons, même pour les tiers, le cas des clients par exemple.
Bien. Et par rapport au licenciement, que peuvent être les motifs réels du licenciement d'un travailleur? Souvent, on parle de fautes lourdes. Lorsqu'il y a une faute lourde, c'est à ce moment-là qu'on peut vous mettre à la porte.
Oui. Lorsqu'il y a une faute lourde, cette possibilité n'est pas garantie qu'à l'employeur. Elle est aussi garantie aux travailleurs. Donc, chacune des parties au contrat peut mettre fin à ce contrat lorsqu'il reproche à l'autre une faute lourde. Mais il n'y a pas que ça dans le contexte de la pandémie, parce que c'est une situation qui affecte aussi l'économie de notre pays, des entreprises aussi. Le code du travail dans ses articles 62 et 78 prévoit le licenciement pour des raisons économiques. Si la gestion de la pandémie dans notre pays a affecté sensiblement une entreprise qui ne parvient plus à faire des recettes comme auparavant, on peut se réfugier sur ces deux dispositions pour mettre fin au contrat de certains travailleurs en invoquant les raisons économiques. Mais il y a une condition. Si c'est un seul travailleur, il faut avoir une autorisation de l'inspecteur du travail du ressort. Si c'est plusieurs travailleurs, il faut l'autorisation du ministre qui a le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, qui doit aussi voir la comptabilité de l'entreprise avec les éléments qu'on va lui envoyer pour voir si réellement il y a des difficultés économiques.
Voilà. Et un travailleur qui se retrouve dans ces situations-là, est-ce qu'il peut porter plainte pour violation de ses droits?
Oui. C'est comme ça que la loi a institué d'abord l'inspection du travail pour commencer par la phase de conciliation chaque fois qu'il y a un litige individuel entre un travailleur et son employeur. Et après cette phase de conciliation, il y a aussi un tribunal du travail institué par la loi pour trancher ce genre de litige. Lorsqu'un travailleur licencié voit dans son licenciement une raison autre que celle invoquée, il peut saisir l'inspection du travail. Et si l'inspecteur du travail du ressort saisi ne parvient pas à mettre fin à ce litige par un règlement à l'amiable ou une conciliation, il peut établir un PV de non-conciliation qui permet de saisir les juges du travail qui se prononcent. Et dans beaucoup de cas, il y a des licenciements abusifs voilés par des raisons autres que celles que les employeurs ont l'habitude d'invoquer.
Voilà, donc on retient que la loi congolaise ne reconnaît pas ce genre de licenciement parce qu'on a refusé de prendre le vaccin.
Non.
Bien, nous rappelons aux auditeurs que vous pouvez participer à cette émission en composant le 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. 081-890-6394. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Alors, quelle est la procédure juridique à suivre lorsqu'on trouve que ses droits sont bafoués ou sont violés, le cas des licenciements, parce que ou des contraintes, il y a certaines entreprises où on vous met pas à la porte, mais on exerce une certaine pression pour une contrainte pour vous amener à aller vous faire vacciner.
Un travailleur qui se trouve dans une situation qui ne lui permet pas d'exécuter son contrat de travail du fait de ce que lui fait subir l'employeur, peut démissionner pour faute de l'employeur, et une telle démission est considérée comme un licenciement abusif. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas une obligation dans notre pays au regard des instruments juridiques internationaux, de la Constitution et des lois qui s'appliquent, qui voudraient à ce que chaque citoyen se fasse obligatoirement vacciner, parce que chacun a la liberté de dire oui ou non à la vaccination. Et si une entreprise ou un employeur se permet de licencier un travailleur ou soit de réduire sensiblement ses droits du seul fait de ses refus, il peut démissionner et sa démission sera considérée comme un licenciement abusif qui vaut dommage et intérêt s'il suit la procédure en saisissant d'abord l'inspecteur du travail et ensuite avec le PV que l'inspecteur va établir le tribunal du travail.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Benjamin nous appelle de Kananga et Innocent de Bukavu. Benjamin, bonjour. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jonas, plutôt à Kananga.
C'est plutôt Jonas à Kananga. Bonjour Jonas, quelle est votre question?
Oui, merci Monsieur Joly. Au Congo, nous avons bien des choses. Les Congolais ont toujours été malins. À mon avis, je ne vois pas qu'il y a un rapport entre la vaccination et le travail. Il y a des autorités qui commencent à mettre la pression, à intimider les gens pour se faire vacciner. Donc. Ça, c'est pour moi, c'est lutter contre la pandémie en créant une autre pandémie. Parce que quand on va licencier, c'est pour le mettre en chômage et faire souffrir sa famille. Ça n'a rien à voir avec ni les codes du travail, à ma connaissance, ni avec une loi de notre pays. Donc. Peut-être que je suis en train de lire selon le comportement qu'il y a au Congo. Comme la plupart des autorités savent que l'IGF a commencé à créer la peur dans leur ventre, il y en a qui peuvent se servir de ces intimidations pour commencer à percevoir des pots de vin de la part des agents. Quand l'agent saura que je serai licencié, il peut avoir ne me licencie pas, je vais mentir que je me suis fait vacciner, mais voilà, vous aurez des pots de vin. Tout ça, c'est possible avec les Congolais. Il faut peut-être que les gens soient vigilants pour que ça ne soit pas ainsi. Et je peux poser la question, j'aimerais poser comme question à l'invité. Au cas où un agent est licencié, est-ce qu'il peut aller se prendre en justice contre son bailleur? Si c'est là, par exemple, si le bailleur n'est pas arrêté, qu'est-ce que l'agent peut faire pour qu'il soit rétabli dans ses droits?
Ouais, vous parlez de bailleur, l'employeur. Bon.
L'employeur, oui. Si l'employeur a licencié un agent, est-ce que l'agent peut aller intenter une action en justice contre l'employeur? Et puis, le président de la République lui-même avait déjà commencé à émettre un peu de craintes sur le vaccin AstraZeneca. Bon, mais pourquoi, dès le départ, ces autorités-là qui veulent licencier n'ont pas attaqué la position du président et ils veulent seulement maintenant commencer à licencier les agents? Voilà un peu ma préoccupation, M. Jody. Merci et bonne journée à tout le monde.
Bien, merci. On va accueillir Charles. Charles, bonjour.
Oui, bonjour Jody. Bonjour aussi à l'invité.
Vous êtes à Lubumbashi. Quelle est votre question?
Oui, en tout cas, nous ne sommes ni contre ni pour. Parce que, entendre parler, l'objectif visé est celui de vacciner un grand nombre de la population. Alors, nous ne savons pas ici chez nous au Congo, parce que beaucoup de personnes manquent d'emploi. Or, l'objectif est de vacciner un grand nombre de la population. Alors, quel sera notre mécanisme face à ceux-là qui n'ont pas l'emploi, ceux-là qui ne travaillent pas? Est-ce qu'il y aura un autre mécanisme pour attendre la masse telle que voulu? Et puis, pour terminer, si c'est un employeur, par exemple, qui refuse aussi de se faire vacciner, quelle sera la suite? J'aimerais un peu les commentaires de l'invité. Voilà, et merci beaucoup.
Bien, merci. Kachai, vous êtes à Kanyuka. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Jeudi. Je voulais avoir des précisions. C'est un cas similaire au cas des vaccins. Un papa qui a engagé son gendre, c'est-à-dire l'époux de sa fille. Alors, maintenant, parce que ils ont eu des problèmes dans leur ménage, le papa constate que son gendre ne traite pas bien sa fille et il veut le licencier au service. Est-ce que ce genre de cas peut-il être considéré comme un cas donnant droit au licenciement abusif d'un travailleur? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est concernant la signature du contrat de travail. Ici, il se constate que beaucoup d'ONG font signer des gens des contrats en dépassant même le nombre normal de signatures des contrats. Parce que j'ai ouï dire que la loi détermine le nombre de contrats à durée déterminée qu'un travailleur peut signer avec le même employeur. Mais nous avons constaté que les ONG font passer des contrats avec les gens à plus de deux fois. Alors, j'aimerais un peu demander à l'invité, parce qu'il y a quelqu'un qui a connu des situations là, quand il a essayé un peu de demander, on lui a dit, alors, comme tu veux montrer que tu es connaisseur de la loi, tu quittes l'ONG. Et il a quitté. Alors, si l'invité peut nous donner des précisions par rapport à cela.
Bien, ça n'a rien à voir avec la vaccination. Nous aujourd'hui, on se focalise sur la vaccination contre Covid-19. Merci d'avoir appelé. On va accueillir le professeur Kayembe, Jean-Marie Kayembe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la prise en charge des malades dans l'équipe des ripostes contre Covid-19. Nous parlons aujourd'hui de... nous abordons ce thème. Un salarié peut-il être licencié pour refus de vaccination, comme ça se fait actuellement sous d'autres cieux, professeur?
Merci beaucoup, mais le professeur de médecine que je suis a des connaissances totalement fragmentaires et fragmentées en ce qui concerne la loi et le droit au travail. Même sous d'autres cieux, j'écoute assez bien la presse locale et étrangère également. J'ai ouï dire que ceci n'avait pas rencontré l'assentiment global du Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel en France. Vous demandez mon avis là-dessus, ben il faut au préalable que nous sachions ce que disent les textes, mais dans notre pays, que je sache jusqu'à ce jour, la vaccination reste tout à fait volontaire.
Voilà, elle reste volontaire. Mais est-ce que on est en train d'envisager, professeur, est-ce qu'il peut y arriver à un certain moment parce que il y a certains qui refusent de se faire vacciner? Est-ce qu'on peut en arriver là un jour?
Je voudrais ici comprendre ce que disent certains collègues français, par exemple, que ça ressemble totalement à un non-sens et une aberration. Lorsqu'on comprend exactement le principe d'un vaccin, lorsqu'on sait que professionnels de santé, on s'expose, et évidemment, par le même chemin, on expose d'autres, lorsqu'on comprend l'importance même qu'apportent les vaccins dans la gestion des maladies infectieuses, des épidémies et des pandémies forcément, j'ai difficile, moi, à intérioriser qu'un professionnel de santé n'accepte pas de se faire vacciner. Ceci, pourtant, ne m'empêche pas de comprendre que le professionnel de santé demeure et est lui aussi un être humain. Avec la médiatisation, le bombardement tous les jours d'experts de tous bords, qui sont experts en tout, sauf réellement en vaccin, dans les réseaux sociaux,
oui,
il est compréhensible que certaines personnes soient tout à fait perturbées quant à leur mental.
Voilà. Donc, à cause du bombardement dans les réseaux sociaux, toutes les informations qui circulent autour du vaccin. Mais, professeur, certains disent que le fait que tout le monde soit vacciné va créer une immunité collective. Est-ce que cela est vrai et qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Voilà. D'abord, commençons par dire ce que cela voudrait dire. L'immunité, c'est lorsque un microbe pénètre chez un individu, deux situations se présentent. Soit il provoque la maladie parce qu'il a trouvé des circonstances favorisantes, parmi lesquelles notamment l'immunité qui n'a pas bien fonctionné ou les comorbidités qui affaiblissent les maladies qui accompagnent, qui affaiblissent l'immunité. Dans une autre situation, c'est il attrape un microbe, son organisme déploie des armes, un peu comme chez nous à l'Est à l'heure actuelle, déploie des munitions, des militaires, etc., qui vont contrecarrer totalement et rompre l'équilibre qui pourrait exister entre le germe et l'individu. Donc, celui-là ne fera pas la maladie. Mais lorsqu'on a atteint une immunité naturelle, celle est là, parce que le germe fonctionne, circule dans la communauté, beaucoup d'individus auront développé des anticorps ou simplement l'immunité qui peut être aussi cellulaire. Il y a des cellules qui nous permettent de lutter, comme les lymphocytes, les macrophages. Oublions directement tous ces mots qui sont rébarbatifs pour les non-médecins. Mais lorsque la plus grande partie de la population est capable de produire ces anticorps ou de booster cette immunité cellulaire, vous comprenez aisément que la maladie n'aura pas droit de cité là où la plupart des gens sont déjà ainsi protégés. C'est ainsi que l'on peut comprendre. Naturellement, c'est le germe lui-même, mais le vaccin est un moyen de donner, de procurer l'immunité aussi à un plus grand nombre dans la société. Imaginez que l'on ait 70 à 80, voire 90% des sujets, quelque part, qui ont développé une bonne immunité contre, aujourd'hui, le microbe de COVID-19. Eh bien, COVID-19 n'aura plus de droit de cité dans une agglomération où plus de 80% éventuellement sont déjà vaccinés. Le vaccin permet, en injectant aux individus soit des germes atténués, donc des germes qui sont affaiblis, mais qui peuvent encore produire, stimuler, booster l'immunité naturelle, le vaccin va produire, va permettre à l'organisme, en recevant des germes atténués ou des protéines, ou même quelques acides tout à fait particuliers, les acides nucléiques, comme les nouveaux vaccins aujourd'hui à mRNA, le Pfizer, Moderna, etc. Mais si nous sommes très nombreux dans la ville, dans le pays, à avoir développé cette immunité, nous pourrons mieux résister contre ces maladies. Je voudrais, permettez-moi, dire que notre pays a une grande expérience des campagnes de vaccination globale. Citons la polio qui a été éradiquée, citons la variole qui a été éradiquée. Comment pensez-vous que ces maladies ont pu être éradiquées? C'est parce que, depuis le départ et depuis la tendre enfance éventuellement, la plupart des gens ont pu être vaccinés. La vaccination reste le meilleur moyen rapide de provoquer de manière précoce une immunité collective la plus large possible.
Bien, professeur Jean-Marie Kaimbe, certains disent que le vaccin ne vous empêche pas d'attraper la maladie, mais ça vous empêche de développer les formes graves.
Mais vous... Je vous en prie, allez-y.
Oui, et puis on dit que malgré le vaccin, vous pouvez toujours transmettre la maladie aux autres, professeur.
Voilà là où j'apprécie le travail que vous faites, qui est celui de transmettre l'information, la bonne information, pour atteindre les cibles que sont tous les auditeurs, etc. Oui, on sait aujourd'hui, et on apprend tous les jours de cette maladie, nous ne cessons de le répéter, c'est une maladie qui nous met tous d'accord pour l'humilité que l'on a à apprendre d'un virus nouveau. Enfin, le virus n'est pas tout à fait nouveau, mais cette pandémie, elle est nouvelle parce que le SARS-CoV-2, c'est la première fois qu'il touche le monde entier comme il est en train de le faire. On sait de mieux en mieux aujourd'hui que ce vaccin n'empêche pas de faire la maladie, ni n'empêche de transmettre éventuellement la maladie à d'autres. Mais quand c'est parce que l'on sait que le vaccin, ils ont un pourcentage de protection qui n'est pas toujours le même. Il y en a qui réagissent à 50%, d'autres 70%, d'autres 90%, etc. On peut se retrouver dans les 20%, par exemple, qui ne sont pas directement couverts. Mais là où l'on est sûr, et ce que l'on a pu acquérir avec l'évolution de connaissances dans le domaine, c'est que la personne vaccinée, par exemple, est une personne qui, si elle fait la maladie, elle fera une maladie plutôt bénigne. C'est rare qu'elle puisse faire de formes graves. Donc, ce vaccin protège contre les formes graves. Ce vaccin, donc, il nécessite une admission en réanimation. Il protège par ce même biais-là, de manière indirecte, contre la mortalité qui peut être très élevée. Il n'empêche pas de développer la maladie, mais ce vaccin, quand on regarde le bénéfice coût-efficacité, je pense que la balance penche plutôt en faveur de la vaccination de tout le monde.
Bien, on a reçu tout à l'heure là quelques questions des auditeurs. Jonas de Kananga veut savoir quelle action on peut tenter en justice contre un employeur qui vous licencie ou qui vous met la pression pour aller se faire vacciner. Et Charles nous dit, bon, on parle de ceux qui travaillent, mais il y a la grande masse aussi. Les gens qui ne travaillent pas, est-ce qu'on va exercer également ces genres de contraintes? Et si l'employeur lui-même refuse de se faire vacciner? Maître Joël, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Pour la première question, sur la procédure de licenciement, les travailleurs qui est licencié pour motif du refus de vaccination peut saisir l'inspection du travail parce que le code congolais du travail ne prévoit pas le refus de se faire vacciner comme un motif de licenciement. Ce serait à ce jour comme un licenciement abusif. Et la personne lésée peut saisir l'inspection du travail du ressort de son entreprise. Et si l'inspecteur du travail qui va convoquer l'employeur ne parvient pas à les réconcilier, il va établir un PV de non-conciliation qui permet de saisir le juge du travail qui a reçu la mission de trancher pareil litige. Pour la deuxième question de l'auditeur de Lubumbashi qui dit si l'employeur refuse de se faire vacciner, il faut voir si on a affaire à un employeur personne physique ou personne morale. Si c'est l'employeur, c'est une entreprise, on ne peut pas concevoir le refus d'une entreprise de se faire vacciner. Mais si l'employeur est une personne physique, l'article 55 du Code du travail impose à tout employeur l'obligation de mettre les travailleurs dans de bonnes conditions qui tiennent compte de leur sécurité et aussi de leur santé. Donc, il refusait de se faire vacciner. Si les travailleurs, on dit que pour les travailleurs, il n'y a pas une telle obligation. Pour l'employeur, personne physique aussi, on ne peut pas lui imposer de se faire vacciner. Mais les deux doivent respecter les articles 51 qui imposent 51 et 55 qui imposent à tous les deux de tenir compte de leur sécurité et de travailler dans des conditions qui garantissent leur santé physique.
Alors, pour qu'une telle loi passe ici, donc ça doit d'abord passer par le Parlement.
Ça doit d'abord passer par le Parlement, mais le Parlement sera aussi buté à un problème.
Lequel?
Lequel, j'ai dit que nous avons ratifié des instruments juridiques internationaux qui garantissent les droits et libertés fondamentaux et que la Cour internationale de justice avait déjà arrêté depuis 1925 qu'aucun État ne peut faire valoir ses dispositions internes pour violer un engagement international. Et même si aujourd'hui on adopte une loi qui oblige tous les citoyens à se faire vacciner, chaque citoyen gardera son droit le plus fondamental, qui ne dépend d'ailleurs pas de la législation interne, d'évoquer les droits à la vie, à la liberté individuelle et à la liberté de conscience. Celui qui estime que ce vaccin va porter atteinte à sa vie privée, il peut toujours refuser.
Bien, vous refusez, on vous met à la porte là. Il faut saisir, vous avez dit, l'inspecteur du travail.
Ouais, il faut saisir l'inspecteur du travail.
Bien, on va accueillir des auditeurs, Pierrot de Lubumbashi et Safari depuis Gabarière. Pierrot, bonjour.
Bonjour Jody Daniel, bonjour au brillant professeur qui vient de s'évertuer et bonjour à infirmiers de profession et experts en santé publique. Je voulais poser quelques questions, mais en parlant d'abord sur ce qu'ils ont essayé de nous éclairer. Moi, personnellement, je pense que tout d'abord, la vaccination a été toujours facultatif. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation. Mais en santé publique, on peut rendre cette vaccination obligatoire lorsqu'on constate que cette entité ici est trop exposée. Et nous voulons que nous puissions prévenir et éradiquer une fois cette pathologie-là. On rend ça obligatoire, mais on contacte. D'abord, c'est le ministère de la Santé qui doit travailler. Et il y a des services qui travaillent sur ça. Donc, dans un pays, il y a un service qui gère la vaccination. Dans notre pays, nous avons la PEV. Qui gère la vaccination. Donc, c'est lui qui travaille, qui voit que quels sont qu'est-ce qui ne va pas avec telle épidémie ou pandémie, et on prend des dispositions telles qu'on a citées, qu'on vient de citer par les professeurs, il a cité des pathologies déjà éradiquées, et la vaccination avait été rendue obligatoire dans beaucoup de régions. On ne vise pas seulement une entreprise. Lorsqu'on vise une entreprise, là, je reviens aussi en administration générale. C'est un cours qu'on nous a appris. Comment la vaccination n'est pas rendue d'abord dans un pays obligatoire, mais une entreprise parvient à obliger les gens. Ici, chez nous, par exemple, le président de la République convoque une réunion mixte où il y a aussi le ministère, y compris la task force qui était là. Ils ont pris la décision, ils ont pris des mesures préventives. Et les mesures là a été dictée aussi par ces professionnels de santé là. Mais on n'a pas obligé qu'une entreprise puisse rendre obligatoire la vaccination. Moi, je peux dire que ça, c'est une violation.
Bien, c'est une violation. Bon, on ne sait pas s'il y a déjà des cas comme ça ici en RDC, mais les contraintes, parfois, doucement, on vous montre qu'il est important d'aller se faire vacciner, mais il n'y a pas une obligation. On va donner la parole à Safari depuis Gabarrière. Bonjour Safari.
Bonjour à vous, bonjour aux invités.
Quelle est votre question?
J'aimerais dire ceci. Il me semble que le gouvernement congolais aurait fait une erreur. Et en fait, le fait de se faire vacciner, c'est quelque chose qui pourrait déjà être obligatoire, car parfois, même le port de cache-nez est obligatoire. Donc, moi, je considère ça comme une erreur, parce qu'ils disent que se vacciner est plutôt volontaire. Alors, ma question de savoir ceci. Lorsque vous dites que le fait de se faire vacciner aussi est volontaire, alors après la contamination, est-ce que il est aussi obligatoire maintenant d'aller se faire soigner dans un hôpital qui est dirigé par notre professeur, par exemple, Kaende, car se vacciner n'est plus obligatoire, donc quelqu'un pourrait aussi, après la contamination, aller là où il veut, à condition qu'il soit quand même guéri. Donc c'est ça, merci.
Bien, merci. Professeur Jean-Marie Kaende, vous avez la parole.
Oui, j'apprécie la perspicacité de notre ami qui vient d'intervenir, qui montre qu'on a peut-être la liberté d'accepter ou non la vaccination. A-t-on également celle d'aller se faire soigner ou ne pas se faire soigner? Mais la maladie, l'évolution, la sévérité du cas impose parfois peu de choix à la personne qui en est atteinte. Je pense que nous devons ici user de beaucoup de pédagogie. Et la pédagogie, ce sera de montrer, comme notre ami l'expert en santé publique venait de dire, que notre pays a quand même une structure qui a en charge la vaccination depuis de nombreuses années qui a donc une certaine expertise dans le domaine. Et nous sommes ici devant un fait nouveau, une pandémie nouvelle, pour laquelle d'ailleurs les vaccins n'ont pas mis le temps habituel qu'ils mettent pour pouvoir être homologués par l'Organisation mondiale de la santé. En moins d'un an et demi, deux tout au plus, des vaccins ont été rendus disponibles. Que vive la science pour cela? Mais vous imaginez la crainte que cela entraîne dans les esprits, le stress social, psychologique, individuel. On doit même réinventer à la limite notre approche sanitaire. C'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, où ils ont déjà la quatrième vague, nos amis, puisque nous échangeons d'Europe, des États-Unis, au consort, disent que les formes les plus sévères des patients admis à l'heure actuelle, elles le sont surtout parmi les non-vaccinés. Je n'ai pas dit que les vaccinés ne faisaient pas de maladie, mais ceux qui la font en général, elles restent soit bénignes. Mais souvenons-nous que cette maladie, nous avons appris également que plus de 85% des sujets continuent de faire une forme de maladie qui reste asymptomatique ou des symptômes très légers. Ne perdons pas cela de vue. Mais nous devons lutter pour le pourcentage de ceux qui font des formes sévères. Et la meilleure chose est d'éradiquer, comme pour la polio, comme pour la variole, d'éradiquer les germes, cette maladie est un des moyens, c'est vrai. Il y a toutes les mesures sociales de restrictions ou de restrictions individuelles qui continuent d'être de mise et qui ont apporté leurs preuves. Luttons, utilisons la pédagogie, je le disais au début, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir parler, pour pouvoir apporter le message de l'expérience qui aujourd'hui est quand même déjà dans sa deuxième année de la vaccination à travers le monde et faiblement jusqu'à présent dans notre pays. Voilà ce que je peux dire à ce stade.
Mmh. Bien, maître, il y a une question. Safari depuis Gabarrière dit que mais déjà on nous oblige à porter les cache-nez. C'est d'après lui, c'est déjà on est déjà dans une sorte d'obligation. Il a peut-on refuser ou pas de mettre le masque?
Déjà, il faut dire que depuis que la pandémie a commencé, beaucoup d'États ont pris des mesures qui portent atteinte aux droits de l'homme. L'obligation de porter des masques, la limitation du nombre de personnes dans des lieux de culte. S'agissant de cette dernière question, en France, par exemple, il y a une confession religieuse qui avait saisi le Conseil d'État contre l'arrêté du Premier ministre qui limitait le nombre de personnes dans les lieux de culte. Et le Conseil d'État avait jugé que l'arrêté du ministre, du premier ministre, le décret du premier ministre portait atteinte à la liberté de religion et qu'il avait demandé de rapporter ces décrets-là. Donc, mais s'agissant de l'obligation de se faire vacciner, nous estimons que si on va dans ce sens, on va franchir la ligne rouge. Parce que obliger quelqu'un à porter un masque, il se pose aussi de sérieux problèmes. Il y a ceux qui s'y portent, il y a ceux qui ne s'y portent pas, qui disent avoir des problèmes de respiration, qui se sentent comme si asphyxiés, étouffés s'ils portent des masques pendant très longtemps. Et déjà là, c'est une violation de la loi. Mais lorsque j'ai rappelé les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, l'article 4 permet aux États, pour faire face à certaines situations, les cas de lorsqu'il est décrété par exemple l'état d'urgence sanitaire, de porter atteinte à certains droits garantis par ces pactes et que l'obligation de porter des masques qui ne portent pas gravement atteinte à la vie de ceux qui les portent peut être conforme à cet article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, contrairement à l'obligation de se faire vacciner qui ne trouve pas son fondement dans un texte juridique.
Bien, on va accueillir Benjamin de Bounia. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Benjamin?
J'aimerais savoir si le gouvernement, par exemple, obligé la situation à recevoir les vaccins contre COVID-19, est-ce que le gouvernement a réellement respecter la liberté populaire qui est dans la Constitution.
Bien, merci pour la question. Professeur Jean-Marie Kayembe, vous avez la parole.
Ben, je pense que la personne qui peut le mieux répondre à cette question, c'est Maître, qui, avec un langage plus que savant et une science tout à fait éprouvée, nous apporte des articles que ma modeste personne ne saurait nullement apporter à ce stade. Je vous prie donc de lui référer cette question pour laquelle il a l'expertise voulue, à mon avis, et je pense qu'il y a même déjà répondu. Merci.
Bien, par rapport à la question de quelqu'un a dit tout à l'heure que les cache-nez, le masque, ça voilà, serait déjà oui, une exact. Violation de la liberté individuelle.
Oui, je reviens là-dessus pour dire qu'il y a plusieurs idées, etc. D'abord, le cache-nez, il n'est pas dit qu'on doit le porter 24 heures sur 24. On ne dort quand même pas avec ce cache-nez lorsqu'on est chez soi. Là où la science a prouvé effectivement qu'il le fallait de manière quasi obligatoire, c'est lorsqu'on est en milieu fermé et en groupe. En ce moment où je parle avec vous, c'est par téléphone, je suis seul. Tout à fait seul dans mon bureau. Je vous jure, la main sur le cœur, si vous aviez une vidéo, vous le confirmeriez, je ne porte pas de masque, je suis seul. Lorsque vous êtes en extérieur, en milieu extérieur, avec une distanciation réelle, là aussi, le port de masque n'est pas obligatoire. Mais on ne peut pas dire, la personne qui ne se sent pas bien, qui a probablement des difficultés respiratoires, la première chose, ce n'est pas une personne qui va quitter facilement son domicile lorsqu'elle est en crise de respiration, au médicament qu'ils doivent prendre, etc. Le port de masque n'est pas l'unique mesure barrière, quoique tant parmi les plus efficaces que l'on puisse édicter et qui ont montré leurs preuves pour les maladies à transmission aérienne. Le SARS, le COVID-19 en fait partie, la grippe également, la tuberculose, etc. Le port du masque demeure quelque chose d'important. Et la difficulté, ou les difficultés qu'ont certaines personnes à le garder, ben celles qui ont ces difficultés sont généralement aussi celles qui ne se baladent pas ou qui ne sont pas forcément en milieu clos, en milieu où il y a une agglomération importante de gens. Non, je suis moi-même médecin, spécialiste en pneumologie, je m'occupe des maladies respiratoires. J'ai rarement, jusqu'à ce jour, rencontré des personnes qui vous disaient que le masque est totalement incommodant en toutes circonstances. Je pense que la plupart des gens qui le disent, ça se passe avant tout dans l'esprit. Il n'y a pas eu de preuves qui montraient que la saturation en oxygène du sang lorsque la personne a porté un masque était de loin inférieure, parce qu'on respire quand même encore et l'air passe.
Bien. Professeur Jean-Marie Kayembe, responsable de la prise en charge des malades dans l'équipe des riposte contre Covid-19, nous vous disons merci. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien, Maître, on va clôturer avec vous par rapport à cette question de l'auditeur de Bounia. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je dis à l'auditeur de Bounia que le gouvernement n'a pas le droit ou le pouvoir de rendre obligatoire la vaccination, mais par contre, il peut encourager les populations à se faire vacciner parce que nous traversons une situation qui demande la prise de conscience de nous tous. La sécurité individuelle doit aussi penser à la sécurité des autres. Parce qu'on parlait de l'implication de cette obligation de vaccination par rapport aux travailleurs. Si vous lisez l'article 51 du Code du travail, il est fait obligation à tout travailleur d'éviter de se mettre dans une situation qui porterait atteinte à sa sécurité, à sa santé et même à celle de ses compagnons ou même des tueurs. Et que si on nous encourage à nous faire vacciner mutuellement sans en faire une obligation, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça va de notre sécurité à nous tous.
Bien, merci Maître Joël Bongo Longondo, avocat au barreau du Congo central. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler, pour échanger avec nous sur ces thèmes, savoir si un salarié peut être licencié pour refus de vaccination. Et vous nous avez dit que la loi congolaise, le Code du travail, ne permet pas une telle chose. Et si cela arrivait, bon, on peut saisir l'inspecteur du travail qui va nous référer au juge du travail. Voilà, je pense que c'est cela. Merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Bien, fidèles auditeurs, nous allons suivre tout à l'heure les informations et on va se retrouver à partir de 11h05 heure de Kinshasa pour parler de la taxe sur l'abattage des espèces protégées en RDC. Quelle est son opportunité? Eh bien, nous allons recevoir le professeur Amundala Drazo, expert en faune sauvage, et maître Félix Credo Lilakako, président du conseil d'administration de l'ONG Juriste pour l'environnement au Congo, sera notre invité. Merci de rester fidèle à Okapi Service.